Alors, cet été, donc nous sommes partis plusieurs semaines, et quand nous sommes rentrés chez nous, c'était impressionnant de retrouver notre jardin. Impressionnant parce que toute la végétation avait poussé de partout, mais vraiment de partout. En fait, j'avais fait en sorte qu'il puisse quand même y avoir un arrosage. Et alors, ils avaient le soleil, la chaleur et l'humidité. Oh, ça a explosé, hein, vraiment, le jardin de verre, mais pas que de gazon, hein. Ça a explosé de partout, hein. Il y avait des choses comme ça un peu partout. C'était impressionnant puisque la terre est un grenier. C'est un vrai grenier, la terre. Il y a plein de graines de toutes sortes, hein. Ce qui fait que ben, tout a poussé, les bonnes et les mauvaises. Tout a grimpé, a levé comme ça. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, si on néglige, si on laisse aller, alors eh bien, il y a tout qui pousse, hein. Il y a le mauvais aussi qui commence à pousser. Et souvent, le mauvais prend le dessus sur le bon, hein. Vous avez du gazon et puis vous avez du chien-dent. Le chien-dent, il pousse le gazon et puis il commence à s'installer un petit peu partout. Et dans notre vie, nous sommes tous des cultivateurs. Nous sommes tous des cultivateurs. En fait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on ensemence notre vie. On ensemence nos relations, on ensemence notre famille, et on jette comme ça de la semence, comment ? Par nos attitudes, par nos paroles, par nos réactions parfois, par nos intérêts personnels, ce qu'on favorise le plus, hein. On est en train d'ensemencer autour de nous, par nos aspirations. Alors vous l'avez sûrement deviné, on va parler de la loi de la moisson ce matin. Alors j'aimerais qu'on prenne Galates 6 et on va voir les versets 7 à 9. Il dit ici, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, le texte de ce matin, il est simple. Il est vraiment très simple. En fait, il n'y a que deux situations possibles. Mauvaise semence, mauvaise récolte. Bonne semence, bonne récolte. En fait, c'est basique, hein. C'est vraiment logique, c'est clair, c'est évident. On pourrait dire que c'est du bon sens paysan. Et pourtant, eh bien, Dieu nous le dit. Il nous le dit encore ailleurs. Il le répète. Il veut vraiment l'imprimer dans notre cœur parce qu'on oublie. On oublie, malheureusement. Alors tout d'abord, il y a un principe général. Donc il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est quelque chose qui est certain. On ne sème pas quelque chose sans qu'il y ait des conséquences qui soient bonnes ou mauvaises. On avait des framboisiers. En fait, on avait planté quelques pieds de framboisiers. C'est bon ça, hein, les framboises. Et puis, c'était tellement épineux. Mais alors, vraiment, on s'est dit, bon, ça va pas. Alors, on a arraché les framboisiers et on les a mis dans un pot pour que on puisse le déplacer. Et la dernière fois, je regarde le jardin de mon voisin et je vois mes framboisiers qui sont en train de courir dans son terrain. Parce que c'est comme les mauvaises herbes, hein, les framboises. Hein. C'est incroyable, hein. Ça. Chut. Ouh, j'ai fait. Mince, c'était pas prévu ça. Hein, il y a un mur, normalement, ça. Mais si, ça passe, hein. Ça passe en dessous. Et on ne sème pas quelque chose sans qu'il y ait des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Tout ce que nous semons dans nos vies ou dans la vie des autres, hein, parce que ben, ce qu'on sème, ça se répand, ça prend racine. Et un jour, ben, ça engendre des bons ou des mauvais fruits. Ça, c'est un principe qui est général. Maintenant, la mauvaise semence engendre toujours la mauvaise récolte. Dans la nature, chaque graine a son ADN. Et voilà, une semence de... Vous plantez des graines de moutarde, ça ne va pas vous donner un abricotier. C'est sûr, hein, chaque graine a son ADN. D'ailleurs, Dieu l'avait dit dans la Genèse. Il a dit tout de suite que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur semence, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et donc chaque semence, elle est vraiment spécifique. Et donc si on plante quelque chose, ça va donner ce qui est lié à la graine, donc l'ADN en lui-même. Si on sème de l'égoïsme, ça ne va pas donner de la générosité. Si on sème de la médisance, ça ne va pas donner de l'amour. Si on sème de l'amertume, ça n'engendre pas le pardon. Et on sème, on est tout le temps en train de semer chaque jour, là, dans nos vies, des graines qui vont nous affecter, qui vont affecter aussi la vie de ceux qui sont autour de nous, qui nous entourent, qui nous côtoient, avec qui nous vivons. Alors il faut se poser la question, mais quel est le résultat? Qu'est-ce que ça va produire à la fin, une fois que ça aura germé? La Bible dit, on l'a lu, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Et c'est la loi de la moisson, il y a un principe de justice. Il est de la justice de Dieu de rendre à chacun selon ses œuvres. Alors c'est vrai qu'il arrive souvent qu'on remette en question la justice de Dieu, parce que parfois on voit que le jugement ne tombe pas sur le méchant. Le mal n'est parfois pas jugé, en tout cas à nos yeux. En fait, c'est parce qu'on ne voit pas tout. Donc voilà, Asaph, dans le psaume 73, il se disait ça. Hein. Il se disait, mais c'est pas possible ça, Seigneur. Les méchants prospèrent, les justes peinent, souffrent. Comment c'est possible? Mais Dieu dit, on ne se moque pas de moi. En fait, il est tout simplement impossible que Dieu n'exerce pas sa justice. Il exercera sa justice. C'est obligatoire. Dieu agit toujours comme cela parce qu'il est juste. Il ne peut pas en être autrement. Il est parfaitement juste. On ne sait pas combien de temps Job a vécu, mais dans son livre, il est écrit, donc, il dit « Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Si on laboure l'iniquité et on sème l'injustice, alors eh bien, on en récolte les fruits. Donc pour lui, c'était une évidence. Et il y a une moisson pour celui qui fait le mal. Bien sûr, pour le juste, c'est parfois vraiment difficile, douloureux, de voir des méchants qui prospèrent et des justes qui souffrent. En fait, c'était un peu, cette semaine, je réfléchissais à ça, parce que j'étais scandalisé devant des faits divers de société que je voyais. Et je me disais, mais c'est pas possible, Seigneur. Comment de voir des méchants qui dépouillent des justes? Ça, c'est scandaleux. Scandaleux. Seigneur, comment peux-tu voir ça? Comment peux-tu le permettre? Mais Dieu est juste. Et il n'y a rien qui est oublié. Il sait tout, il voit tout, rien n'est oublié. Et à moins qu'il y ait repentance et foi en Jésus-Christ, s'il y a repentance et foi, eh bien, par la grâce, voilà, Dieu peut passer l'éponge. Mais sinon, rien n'est oublié. Dieu garde tout. Et la justice divine, elle s'exerce. Et il y a une histoire dans les évangiles qui nous l'explique. On va la lire ensemble. C'est Luc 16, 19 à 31. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » quand on regarde cette histoire du point de vue de quelqu'un de l'époque, elle est profondément injuste. Pourquoi ? Parce que vous voyez un riche qui profite de son argent, il est dans l'abondance, il festoie, il mange, il se réjouit, il se paye tout ce qu'il veut, tout va bien, et il a le cœur dur, et voilà, il méprise celui qui est à sa porte, un pauvre qui lui est voilà, dans la déchéance, dans les maux, il est malade, il est couvert d'ulcères. Le pauvre a une foi en l'Éternel, c'est pour ça qu'il est dans le sein d'Abraham. Il a une foi en l'Éternel, il croit dans le Dieu vivant. Mais ça ne change rien en apparence. Ça ne change rien, il est dans la souffrance. Et le riche, lui, il ne respecte ni Dieu ni personne. Et puis tout va bien, il est dans l'opulence. Et donc, d'un point de vue terrestre, on se dit, mais c'est injuste. Quelqu'un de l'époque pouvait se dire, mais mince, pourquoi lui, il a pu vivre comme ça jusqu'à la fin de ses jours, alors que l'autre souffrait. Et Jésus tire le voile et nous permet de regarder derrière, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà ? Qu'est-ce qui se passe dans le séjour des morts ? Et on voit un riche, là, le riche impie qui souffre. Il souffre cruellement, il souffre voilà, dans ce qu'il est, dans sa personne. Il est jugé pour son égoïsme, jugé pour son indifférence, jugé pour son mépris de Dieu, son manque de piété, jugé parce qu'il n'a pas aimé Dieu et aimé son prochain. Et le pauvre, lui, il n'avait rien pour lui, si ce n'est sa foi en Dieu, son espérance, et le voilà consolé. Le voilà en paix, accueilli, entouré pour l'éternité. Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et ce que nous voyons ici, ça ne doit pas nous troubler. Il ne faut pas se laisser troubler, même si parfois on voit des méchants qui prospèrent. Dieu nous révèle qu'à la fin, eh bien, il y a un jugement. À la fin, il exerce sa justice. Parce que ça ne peut pas être autrement. En fait, il est juste et donc il exercera sa justice. Il y a une moisson pour les justes et pour les méchants. Maintenant, on peut dire que la moisson, elle commence dès maintenant. Il y a une moisson finale, mais il y a une moisson qui commence dès aujourd'hui. Verset 8, il dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et ce verset, il peut être pris de deux manières. D'abord, pour énoncer ce qu'on vient de développer, hein, l'histoire de Lazare et de l'homme riche, celui qui sème pour sa chair, ben un jour, il va hériter de la corruption, il va périr hein, éternellement. Mais aussi, on peut le prendre comme quelque chose de vrai pour nous, ici, maintenant, aujourd'hui. Si on sème aujourd'hui pour notre chair, alors on va moissonner aujourd'hui de la corruption. Par exemple, si je regarde des mauvaises choses, eh bien, il y a des conséquences. Pourquoi ? Parce que mon âme, elle enregistre tout ce que je vois, elle enregistre tout ce que j'entends, tout ce qui se passe autour de moi. Et il y a des conséquences parfois qui peuvent se ressentir, hein, qui avoir un effet et qui perdurent dans le temps. À noter que souvent nos faiblesses d'aujourd'hui, elles viennent de nos erreurs du passé. On a commis des erreurs et puis ben, aujourd'hui il y a une faiblesse qui reste là. Il faut lutter constamment contre cette faiblesse. De même, si on a fait un abus de quelque chose dans le passé, ben souvent il y a des conséquences après. Dieu nous délivre de nos péchés, mais parfois il y a des conséquences qui durent pendant longtemps. Alors ben voilà, c'est quelque chose de douloureux. Maintenant, si un enfant de Dieu tombe dans quelque chose, ben il sème pour sa chair aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe hein, le risque, eh ben c'est qu'il moissonne finalement une corruption. Commence à moissonner des mauvaises habitudes et à moissonner des choses qui vont commencer à lui faire du mal, à le détruire. Le péché n'est pas sans risque et il n'y a personne qui est immunisé, personne qui peut dire « Ah ben, quand même, moi, non, ça va, je suis loin de tout ça. » Par exemple, il y a certaines personnes, elles ne font pas des choses graves extérieurement, mais elles vont garder quelque chose dans leur cœur, elles vont garder de la rancœur à l'intérieur. Il va y avoir un manque de pardon, il va y avoir de l'amertume, des mauvaises pensées, on va conserver. Et ça ne fait jamais du bien. On est en train de semer et on récolte aussi. C'est une manière de semer pour sa chair et on en moissonne les fruits. Certains ont de la colère, de la haine parfois même, hein, vis-à-vis d'une personne et ils gardent ça. Puis après, ben, il y a des conséquences, il y a des ulcères, des problèmes. Hein. Ça affecte le corps, l'âme affecte le corps. Si l'âme va bien, le corps va bien. Si l'âme ne va pas bien, et ben souvent, il y a des conséquences. De même aussi, simplement la négligence, c'est une manière de semer pour la chair. On paresse, on ne fait rien de constructif, on néglige de faire ce que nous devrions faire, on néglige nos devoirs, on néglige notre communion avec le Seigneur, y a des conséquences. La chair commence à prendre le dessus, elle devient plus forte et après elle nous domine. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais ce n'est pas simplement un danger pour nous-mêmes. Il y a aussi des familles qui sont parfois en souffrance parce qu'il y a un membre de la famille, un parent parfois, par exemple, qui va agir mal, qui va donner un mauvais exemple. Il y a des répercussions. Hein. Après, ça peut se répandre après sur les enfants. C'est souvent les enfants qui sont les premières victimes de la désobéissance et du péché des parents. Et donc parfois certains ne font pas que se corrompre eux-mêmes, mais ils finissent par corrompre aussi autour d'eux. Et ils vont moissonner ce qu'ils ont semé. Et Dieu veut nous éviter cela. C'est pour ça qu'il nous prévient. Et merci Seigneur, c'est que c'est vrai aussi dans l'autre sens. Regardez verset 8, on va le relire complètement. Il dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et celui qui sème pour l'esprit, il moissonne déjà maintenant. Aujourd'hui, il moissonne déjà la vie, hein, la vie éternelle. On est toujours au bénéfice de cette vie qui nous est offerte par le Seigneur. Une vie, quand elle est consacrée, eh bien, on en a les fruits. Qu'est-ce que c'est semer pour l'esprit ? Semer pour l'esprit, c'est semer la repentance. Qu'est-ce qu'on a besoin de repentance ? C'est semer l'obéissance, c'est semer la soumission, semer la consécration. C'est semer une vie qui se laisse ordonner par la Bible, se laisser ordonner par la Bible. Dieu le dit, je le veux, je le fais. Voilà, Seigneur. C'est semer aussi une vie qui se laisse courber. Il faut se courber avec le Seigneur. C'est les méchants qui restent droits comme des i. C'est semer une vie aussi de bonnes habitudes, de saints réflexes. Des saints réflexes. Voilà. La foi, la confiance, l'espérance. C'est semer une vie de dépendance du Seigneur. Une vie de communion, d'intimité avec Jésus-Christ. C'est semer une vie de marche par l'Esprit. Une vie conduite par l'Esprit. On veut être conduit par le Saint-Esprit. Et quand on fait ça, alors eh bien, on en reçoit les bénéfices. Pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que ça se répand. Et on moissonne alors la vie éternelle. Quand on pense à la vie éternelle, on imagine parfois, mais oui, ben, quand je mourrai, ça y est, j'entrerai dans la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle commence maintenant. Dès qu'on marche avec Jésus-Christ, on est déjà dans cette vie éternelle. Et ça ne sera qu'un passage, une prolongation pour l'éternité. Voilà. On va entrer dans l'éternité, mais elle est déjà commencée pour nous qui le connaissons. En fait, ça commence le jour de notre conversion, le jour de la nouvelle naissance, le jour où on cède la place à Jésus-Christ, où il prend possession de sa demeure. Hein, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si Christ vit en moi, et si je vis dans la foi au Fils de Dieu, alors ben, ça y est. La vie a commencé, la nouvelle vie, et elle ne se terminera jamais. Et donc, de là l'importance de semer pour l'esprit. Et puis, au jour où Dieu l'aura décidé, hop, on entrera dans le ciel de gloire, et On sera dans cette vie, voilà, la vie va engloutir ce qui est mortel, et ça sera pour toujours. Mais en attendant, Dieu nous dit, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et il y a une notion de temps ici. Nous moissonnerons, ça c'est quelque chose qui est certain, mais le Seigneur a pris cette image de semer en terre, hein, et vous savez, quand vous semez, ça ne pousse pas en 5 minutes. Hein? On aimerait bien, on sème, hop. Mais ça, c'est dans les films. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. En général, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui réussit, il faut du temps. Il faut toujours du temps. On a une expression en français, c'est « vite fait, bien fait ». Mais « vite fait, bien fait », ça n'existe pas, hein. Vous savez, quelqu'un qui fait quelque chose vite fait, bien fait, il a passé du temps avant. C'est parce qu'il l'a déjà fait 100 fois. Alors, il est capable de le faire vite fait, bien fait. Mais il a passé du temps. Ça n'existe pas, le vite fait, bien fait. Prenez un artiste dans la rue. On en voit de temps en temps, là, sur le bord de mer, qui font des portraits. C'est incroyable. Un enfant qui s'assoit, quelques coups de crayon, et en un quart d'heure, on a un visage, une photo, c'est très ressemblant. Il a pris un quart d'heure. On se dit, ouais, c'est simple. Mais toutes les heures de travail, toutes les heures où il s'est exercé, où il a recommencé, où il a raté, il a recommencé, recommencé, tout ça pour avoir le bon coup de crayon, le bon coup d'œil, pour voir les proportions, pour voir les ombres, pour réussir à reproduire tous les traits distinctifs de la personne, le regard. Que d'heures passées. Ou bien un musicien. Aujourd'hui, on n'a pas Mireille avec nous. Alors ce matin, quand je suis arrivé, j'ai dit « Oh, bah Céline, tu vas jouer du piano. » Alors elle s'est assise, elle a joué. Elle n'avait jamais touché un piano de sa vie. Vous croyez que c'est comme ça? Non. Ah non. Un musicien, il faut passer du temps pour apprendre à jouer. Moi, j'aimerais bien que ça aille vite. Mais non, il faut passer énormément de temps. On n'apprend pas à jouer d'un instrument en 5 minutes. Et il faut de la persévérance. Et moi, ça m'impressionne même, les musiciens. Il faut vraiment de la ténacité, y revenir, et travailler encore. Tout ce qui réussit, tout ce qui est beau, ça prend du temps. Il faut du temps. Et pour semer pour la vie, pour semer pour l'esprit, ben c'est pareil. Il faut de la persévérance. On ne peut pas avoir les bénéfices d'un instrument, en entendre toutes les harmonies, la beauté du son, si on ne travaille pas. Il faut travailler. Et de la même manière, la vie spirituelle, elle est le résultat d'une constance à vouloir dépendre du Seigneur. On veut dépendre du Seigneur. On veut marcher par l'Esprit. On veut le laisser faire dans notre vie. Il y a un désir de persévérer. On veut faire ce qui lui plaît. On veut lui obéir, et on recommence, et on recommence, et on renonce à soi-même, encore, et on le laisse vivre en nous. Il faut du temps. Et on se repent des centaines de fois, des milliers de fois. On place de nouveau notre confiance en lui, croyant que ce qu'il a commencé, il l'achèvera. On en a eu l'illustration ce matin. C'est sûr, ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Dieu est persévérant. Dieu persévère dans nos vies. Mais nous aussi, il faut qu'on persévère. Paul dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas. Et il y a des situations qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Il faut du courage. Par exemple, dans l'éducation des enfants. C'est un réel bonheur d'avoir des enfants. Mais c'est aussi une entreprise de longue haleine. Hein. Parce que c'est un investissement sur minimum 2 décennies, voire plus. Parfois, il y a des prolongations. Donc, c'est un vrai investissement. C'est vrai aussi qu'on ne naît pas parent, on le devient. Et en fait, on apprend en le faisant. Hein. Et quand on a des enfants, eh bien, il y a tout le temps des nouveaux défis. Parce que ben, les enfants grandissent et les défis ne sont pas les mêmes. Et on avance et hop, un nouveau défi, et un nouveau défi. Il faut y revenir, et revenir encore. Certains sont très faciles, d'autres nous pompent toute l'énergie. Et voilà, il faut de la persévérance. C'est vrai aussi dans le couple. Chaque couple construit quelque chose. Et si ce n'était pas un défi, ben, il n'y aurait pas tant de séparation. Et même parfois, malheureusement, parmi nos frères et sœurs, dans des couples chrétiens. C'est que c'est un défi. Il y a un vrai défi. Pour devenir un couple qui s'aime après des décennies de vie ensemble, eh bien, il faut le vouloir. Il faut y travailler. Et encore. Et on y revient. Et on s'humilie. Et on recommence. Et on demande pardon. Et on change. Et on demande, Seigneur, change-moi. Seigneur, agis en moi. Et il y a tout un travail. C'est comme ça que ben, ça se parfait. Ça devient plus parfait. C'est vrai aussi dans une église. Les relations, elles se construisent. Elles s'entretiennent. Elles se protègent. Parfois, elles se restaurent. Et ce n'est pas sans effort. Il y a des efforts aussi à faire. Sans persévérance, ce n'est pas possible. Parfois, il y a des incompréhensions, il y a des ajustements, il y a un besoin de communication. Il faut de la grâce, il faut du pardon, il faut de la miséricorde, il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Et c'est un défi sur le long terme. Après, il y a plein de situations pardon, dans la vie où il est évident que le bénéfice il vient avec le temps. Il faut du temps. Parce que ben, on est en train de construire une relation, construire un lien, une amitié, une confiance, une ouverture. Dieu dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et ces quelques mots de la fin, ils nous parlent encore. Se relâcher n'est jamais bon. Parfois, on se relâche et on perd tout le bénéfice de nos efforts. On a fait beaucoup d'efforts, mais voilà, on a perdu. Et le Seigneur nous encourage à ne pas baisser les bras, ne pas se lasser, mais garder l'objectif devant soi. Et quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Ben, c'est la moisson. Eh oui, il est parlé de moissonner. C'est-à-dire de recevoir le plein bénéfice de tous nos efforts. Quelle bénédiction! Il ne faut pas passer à côté de ça. Si on fournit des efforts, ben ça va porter du fruit. Et donc, on va recevoir le bénéfice. C'est ça l'important. C'est ça qui doit nous tenir, qui doit nous motiver. On ne fait pas ça pour rien. On n'est pas en train de travailler dans le vent. Mais c'est pour hériter la vie. Hériter la vie pour nous-mêmes, pour notre vie de tous les jours, pour qu'on soit rempli, pour qu'on soit conduit, pour qu'on soit vivifié par le Saint-Esprit. Et puis c'est pour les autres, parce que quand il y a la vie en nous, ben, la vie elle se répand aux autres. C'est contagieux la vie. La vie du Seigneur, elle est commune, elle se communique, hein, elle est communicative. Il dit « Et nous moissonnerons au temps convenable ». Et je termine en disant que le plus important pour nous, c'est qu'on sème l'amour. Quand vous regardez le monde, notre monde, vous voyez des gens qui excellent dans plein de domaines. Quand vous regardez la télé ou sur Internet, vous voyez des grands chanteurs, des grands musiciens, des artistes, des peintres, des architectes, mais aussi des hommes politiques. Vous voyez aussi des hommes qui ont réussi dans le commerce, mais voilà, qui ont fait fortune dans tel domaine ou tel autre domaine, ou des inventeurs. C'est incroyable. Il y a plein de gens comme ça qui excellent. Ils excellent vraiment dans leur domaine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis toute leur énergie dans un domaine particulier. Parfois, on regarde notre propre vie et on peut se dire ben, « Moi, j'excelle pas vraiment. » quoi. Il n'y a pas un domaine où j'excelle. En fait, on est des gens moyens. peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne se reconnaît pas là, mais on est plutôt des gens moyens. C'est-à-dire que oui, peut-être on arrive mieux à faire quelque chose parce que ben on a reçu une formation, ou parce qu'on l'a fait souvent, ou donc on le fait pas trop mal, on s'en sort bien. Mais on ne peut pas dire qu'on excelle, qu'on est vraiment tout en haut. Mais il y a un domaine où on peut exceller, parce que c'est à notre portée, et Dieu nous demande d'exceller. C'est l'amour. Ça, il faut exceller en amour. Et c'est possible, parce qu'on a Jésus en nous. Donc on peut exceller, si on veut, on peut. Et si on est chrétien, alors on doit viser ça. Il faut exceller dans cette vertu qu'est l'amour. Par Jésus, on peut aimer, et on devrait chercher à aimer. Aimer notre famille, aimer nos enfants, aimer notre conjoint, aimer nos parents, aimer nos frères et sœurs, aimer notre prochain. Celui qui sème l'amour, il se prépare une moisson. Il y aura toujours un bon fruit à l'amour. Et alors que notre cœur, le diable et le monde nous encouragent à semer plutôt de l'égoïsme et le rejet de l'autre, il faut pratiquer ce commandement, l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Excellez en amour. Si on sème l'amour, alors la moisson, elle sera bonne.